Je vous invite à ouvrir votre Bible dans 1 Pierre, hein, puisqu'on s'était quitté sur la première épître de Pierre, il y a un mois à peu près, et nous sommes au chapitre 2, nous faisons une étude suivie de, nous avons entamé en tout cas une étude suivie de cette épître, de cette lettre, que Pierre adresse à des chrétiens qui sont, dit-il, dispersés dans le Pont, la Galatie, la Cappadoce, l'Asie et la Bithynie. Et il veut les encourager. Cette lettre parle beaucoup de souffrance. Il veut les encourager et en leur montrant l'exemple de Christ, en leur rappelant vraiment ce qu'ils sont et tous les privilèges qu'ils ont. Et au chapitre 2, verset 9, il avait décliné un peu, on pourrait dire, l'identité chrétienne en ces termes. Vous, au contraire, verset 9, vous êtes une race élue, un sacerdoce royal, une nation sainte, un peuple acquis, afin que vous annonciez les vertus de celui qui vous a appelé des ténèbres à son admirable lumière. Vous qui autrefois n'étiez pas un peuple et qui maintenant êtes le peuple de Dieu, vous qui n'aviez pas obtenu miséricorde et qui maintenant avez obtenu miséricorde. Voilà ce que sont les croyants, des citoyens, on pourrait dire des cieux. Et dans la seconde épître de Pierre, l'apôtre Pierre dit « Nous nous attendons de nouveaux cieux et une nouvelle terre où la justice habitera ». Donc il veut vraiment fixer les yeux des croyants sur ce qui les attend, sur ce qu'ils sont en Jésus-Christ. Mais, il s'empresse de dire à partir du verset 11, « Bien-aimés, je vous exhorte comme étrangers et voyageurs sur la terre à vous abstenir des convoitises charnelles qui font la guerre à l'âme et ayez au milieu des païens une bonne conduite, afin que là même où ils vous calomnient comme si vous étiez des malfaiteurs, ils remarquent vos bonnes œuvres et glorifient Dieu au jour où il les visitera. » Cette citoyenneté céleste qui est la leur ne doit pas les faire oublier qu'ils ont une conduite à avoir pendant leur citoyenneté terrestre. Les deux choses sont liées. Cette qualité d'étranger ne doit pas les pousser à prendre de la distance vis-à-vis de la société dans laquelle ils vivent. Il les appelle donc à vivre une certaine relation avec la cité, avec la société, tout en étant citoyens des cieux et en étant étrangers et voyageurs sur la terre. Et particulièrement dans le domaine du rapport, et c'est ce que nous avions considéré la dernière fois, qu'ils doivent entretenir avec les autorités. Verset 13, et donc on va lire du verset 13 jusqu'au verset 17, c'est là où nous sommes. L'apôtre Pierre dit ici, voilà, vous êtes des étrangers, des voyageurs, mais vous devez bien vous conduire, et particulièrement dans vos rapports avec les autorités. Et il dit ceci, verset 13, « Soyez soumis à cause du Seigneur à toute autorité établie parmi les hommes, soit au roi comme souverain, soit au gouverneur comme envoyé par lui pour punir les malfaiteurs et pour approuver les gens de bien. » Verset 15, « Car c'est la volonté de Dieu qu'en pratiquant le bien, vous réduisiez au silence les hommes ignorants et insensés, étant libres sans faire de la liberté un voile qui couvre la méchanceté, mais agissant comme des serviteurs de Dieu. Honorez tout le monde, aimez les frères, craignez Dieu et honorez le roi. » Voilà donc ce que Pierre dit ici concernant le rapport que doit entretenir le chrétien avec les autorités. Le croyant d'origine juive avait sans doute du mal avec l'idée de se soumettre aux autorités, et particulièrement aux autorités romaines. Et certainement quand l'apôtre Pierre écrit cela, il écrit à des chrétiens, il dit dispersés, mais qui étaient aussi d'origine juive. La soumission à l'autorité romaine pour ces croyants n'était pas de quelque chose qu'il pouvait faire facilement. Et les questions qui étaient posées à Jésus soulignent quelque part cette difficulté qu'il y avait dans le rapport avec les autorités. Par exemple, en Matthieu 22, verset 17, il y a une question qui est posée à Jésus. « Dis-nous donc ce qu'il t'en semble. Est-il permis ou non de payer le tribut à César ?» Hein? Le rapport avec l'autorité romaine et la soumission à l'autorité, le fait de payer ou de ne pas payer les taxes, voilà ce qui montre qu'il y avait, que ce n'était pas quelque chose de facile, d'entretenir de bonnes relations avec les autorités. Et les Juifs n'hésitaient pas souvent à se soulever contre les occupants romains. On parle de la grande révolte de 60 à 70, hein, qui a amené la destruction de Jérusalem par les armées de Titus. Eh bien, c'est vraiment la grande manifestation de révolte qui a attiré cet écrasement, hein, cet anéantissement, on pourrait dire, de Jérusalem. Donc, Pierre écrit à des chrétiens qui sont dispersés et qui ont certainement cet arrière-plan-là, et qui ont peut-être été élevés dans la culture de la résistance au gouvernement. C'est quelque chose que l'on connaît certainement bien de nos jours. Et la vie d'étrangers et voyageurs, bien sûr, ne consiste pas, dit-il, à résister simplement au gouvernement, mais à manifester en se soumettant aux autorités, c'est ce qu'on voit dans ce texte, les vertus de celui qui vous a appelé des ténèbres à son admirable lumière. Donc Pierre ne fait pas qu'exhorter à la soumission, il donne un enseignement vraiment sur le rapport entre les autorités et Dieu et sur l'impact de la soumission aux autorités. Alors on avait considéré que Dieu contrôle toutes les autorités gouvernementales. Pierre dit, soyez soumis à cause du Seigneur à toute autorité établie parmi les hommes, soit au roi comme souverain, soit au gouverneur comme envoyé par lui pour punir les malfaiteurs et approuver les gens de bien. Dans Romains chapitre 13, l'apôtre Paul souligne bien que l'autorité vient de Dieu. On avait dit que donc Dieu contrôle toute autorité. Toutes les autorités humaines sont instituées par Dieu. Et les autorités humaines ont une mission, on avait vu cela, qui est conférée par Dieu, dans la limite bien sûr, dans des limites qui sont imposées aussi par Dieu. Et on avait souligné le fait que le chrétien a un devoir de soumission qui est motivé par la crainte de Dieu. Pas par la peur du gendarme, mais par la crainte de Dieu. Pierre dit, soyez soumis à cause du Seigneur. À cause du Seigneur. À toute autorité établie parmi les hommes. Et donc là, aujourd'hui, nous voulons juste considérer la dernière partie de cette section, les versets 15 au verset 17. Que je relis, car c'est la volonté de Dieu qu'en pratiquant le bien, vous réduisez au silence les hommes ignorants et insensés. Et nous avons là, on pourrait dire, la raison de la soumission chrétienne. Pierre dit, c'est la volonté de Dieu qu'en pratiquant le bien, vous réduisiez au silence les hommes ignorants et insensés. Alors, qui sont ces ignorants et ces insensés dont il est question ici? Il ne s'agit pas de personnes qui sont ignorants concernant les mathématiques, la philosophie ou la littérature, bien sûr, mais ce sont ceux qui, certainement, décriaient le christianisme, qui le montraient du doigt, qui pointaient du doigt les chrétiens, qui rejetaient volontairement le christianisme et qui calomniaient l'évangile. On le voit au verset 12. Pierre dit, ayez au milieu des païens une bonne conduite, afin que là même où ils vous calomnient, comme si vous étiez des malfaiteurs. Autrement dit, les chrétiens étaient certainement montrés comme des malfaiteurs, comme des personnes qui s'opposent au gouvernement, et qui sont hostiles au gouvernement. Alors, c'était certainement faux, mais c'était ainsi qu'ils étaient probablement vu. Il disait qu'ils sont des ennemis du gouvernement. Donc il pourrait sembler que l'apport d'arguments, par exemple, la résistance farouche, soit ce qu'il y a de plus efficace pour faire taire les détracteurs. Mais Pierre dit ici que Dieu a choisi pour faire taire les détracteurs, eh bien il a choisi la pratique du bien par les chrétiens. Et cette pratique du bien consiste à se soumettre aux autorités. Autrement dit, Dieu a choisi que la soumission aux autorités est ce qui va museler, c'est ce que ça veut dire le terme ici, hein, faire taire, museler, laisser sans voix les détracteurs de l'Évangile. Ce n'est pas en brandissant des slogans, en faisant la révolution, en résistant, il dit, que eh bien, ils seront convaincus, mais en se soumettant, en pratiquant le bien, ils seront réduits au silence. La pratique du bien, une vie exemplaire qui a pour expression la soumission aux autorités, aura un résultat des plus efficaces, dit Pierre ici. Et il dit que ça, c'est la volonté de Dieu. C'est exactement ce qu'il dit au chapitre 3, verset 1, quand il dit « Femme, que chacune soit soumise à son mari, afin que si quelques-uns n'obéissent pas à la parole, ils soient gagnés sans parole par la conduite de leur femme, en voyant leur manière de vivre chaste et respectueuse. » Il dit voilà, le silence, la soumission a une puissance insoupçonnée. Il nous semble qu'il faudrait faire autrement. Mais Pierre dit, c'est comme ça que Dieu a prévu de faire les choses. La pratique du bien qui consiste à se soumettre de manière générale, bien sûr, on avait vu les circonstances, il y a des circonstances dans lesquelles on ne peut pas se soumettre, mais de manière générale, hein, la soumission, la pratique du bien par la soumission est ce que Dieu, et c'est la volonté de Dieu, pour réduire au silence ceux qui, faire taire ceux qui ont tendance à dénigrer l'Évangile, ce qui décrit l'Évangile. Il dit la même chose au chapitre 3, verset 16, regardez, verset 15, il dit « Mais sanctifiez dans vos cœurs Christ le Seigneur, étant toujours prêt à vous défendre avec douceur et respect devant quiconque vous demande raison de l'espérance qui est en vous, ayant une bonne conscience, afin que là même où il vous calomnie, comme si vous étiez des malfaiteurs, ouais, même expression qu'au verset 12, afin que là même où il vous calomnie comme si vous étiez des malfaiteurs, ce qui décrit votre bonne conduite en Christ soit couvert de confusion. » Donc l'attitude exemplaire du croyant dans son rapport avec les païens, dans son rapport avec les autorités, particulièrement dans la soumission aux autorités, a une grande efficacité. Et c'est la volonté de Dieu, dit Pierre. C'est-à-dire que Dieu a prévu, je ne sais pas comment il faudrait dire ça, mais Dieu a fait que ça marche comme ça. C'est comme ça que ça fonctionne. Et ça va fonctionner comme ça, parce que c'est sa volonté qu'il en soit ainsi. Lorsque j'ai lu l'histoire, vous avez peut-être lu l'histoire de Pline le Jeune, parce que vous connaissez Pline, parce que du Pline ou Pline le Jeune, hein. Qui était un sénateur romain du 1er siècle, hein, fin du 1er siècle, et qui a été sénateur en Bithynie. Bithynie. Tiens, si vous regardez le premier verset, qu'est-ce qu'il est dit ? Pierre, apôtre de Jésus-Christ, à ceux qui sont étrangers et dispersés dans le pont, la Galatie, la Cappadoce, l'Asie et la Bithynie. Hein ? Donc, quelques années plus tard, parce que là, on est probablement dans les années 60, 65, lorsque Pierre écrit cela, mais Pline le Jeune, c'était vers 112, donc de notre ère. Il écrit à l'empereur, qui s'appelait Trajan à cette époque, romain, pour parler d'une catégorie particulière d'administrés qu'il y avait dans la Bithynie, des personnes qu'il avait administrées, et qui s'appelaient les chrétiens, justement. Et il écrivait pour avoir des conseils, savoir comment agir à l'égard de ces chrétiens. Il en avait conduit quelques-uns déjà à la mort, simplement parce qu'ils étaient des chrétiens. Il les poussait à renier leur foi. Et pour renier leur foi, ils devaient sacrifier, hein, à des dieux, on pourrait dire cela, en ayant devant eux l'image de l'empereur, et en maudissant Jésus-Christ. Il fallait qu'ils fassent, qu'ils aillent jusque-là. Et quand ils avaient fait cela, ils disaient, parce que certains disaient, oui, j'ai été chrétien, mais je ne le suis plus. Et puis d'autres disaient, non, je ne suis pas chrétien, etc. Et ils, pour savoir si c'était vrai, ils les obligeaient à faire cela. Mais les véritables chrétiens, et le texte dit qu'ils savaient que les véritables chrétiens ne feraient jamais cela. Et les véritables chrétiens ne faisaient pas cela. Donc ils les amenaient à la mort. Mais il y avait quand même quelque chose qui le tracassait. Et donc il écrit à l'empereur Trajan pour parler de ces chrétiens, pour avoir quelques conseils. Et les textes disent que voilà ce qu'il avait à leur reprocher. Il dit, voilà leurs actes délictuels. C'est de se rassembler à date fixe avant l'aube, de chanter un hymne au Christ comme à un Dieu, de s'engager par serment à ne commettre ni vol, ni acte de brigandage, ni adultère, et à ne pas manquer à leurs paroles. C'est extraordinaire ça, n'est-ce pas? Les bonnes œuvres. Ils remarquent vos bonnes œuvres. Et tout ce qu'ils ont à opposer comme acte délictueux, ce sont des bonnes œuvres. Et c'est ça que Dieu nous demande de faire, c'est d'avoir une attitude chrétienne telle que s'il y a quelque chose que un gouvernement peut opposer à un chrétien, ce soit seulement ses bonnes œuvres. Pas sa résistance, pas son caractère toujours en train de manifester, pas voilà sa colère, mais ses bonnes œuvres. Ayez au milieu des païens une bonne conduite afin que là même où ils vous calomnient comme si vous étiez des malfaiteurs, ils remarquent vos bonnes œuvres. Bonnes œuvres. Il n'y a que ça qui reste. Et donc ce que Pierre appelle, et ce que Pierre appelle ici les chrétiens qui sont calomniés comme des malfaiteurs ou quand les bonnes œuvres sont décriées, on l'a vu en 1 Pierre 3, verset 16. La conduite exemplaire du chrétien est le plus excellent moyen d'ôter tout scandale, de fermer la bouche à tout détracteur, parce que c'est la volonté de Dieu. Voilà la raison pour laquelle Dieu veut que le chrétien soit soumis aux autorités. Cette soumission aura un impact considérable, plus considérable qu'on ne peut l'imaginer. Mais deuxièmement, je voudrais souligner ceci aussi. Pierre dit que le chrétien doit se soumettre. C'est la volonté de Dieu qu'il le fasse et qu'il pratique le bien. Et cette volonté de Dieu dans la pratique du bien, je ne l'ai pas lu, mais se retrouve aussi au verset 17, chapitre 3. Car il vaut mieux souffrir, si telle est la volonté de Dieu, en faisant le bien qu'en faisant le mal. Donc Pierre dit, voilà, il faut faire toutes ces choses. Mais il dit que le chrétien doit le faire en homme libre. Regardez le verset 16, il dit « Étant libre, sans faire de la liberté un voile qui couvre la méchanceté, mais agissant comme des serviteurs de Dieu. » Probablement, il anticipe ce que certains auraient pu dire. « Mais nous sommes libres, Pierre. Nous sommes des citoyens des cieux, on n'a pas à se soumettre à toutes ces lois. Parfois, sont des lois pas comme il faut, pas de bonnes lois. Nous sommes libres. » Et Pierre dit, vous êtes libre. Et il dit, conduisez-vous, d'autres traductions disent, conduisez-vous en homme libre, en gens libres, en personne libre. Donc il atteste, il affirme bien sûr la réalité de la liberté chrétienne. Il ne dit pas, non, vous n'êtes pas libre, vous devez être assujetti au gouvernement sous lequel vous êtes. Il ne dit pas cela, il dit, oui, vous êtes libre. Mais il faut utiliser correctement cette liberté. Et le chrétien est l'être le plus libre de la planète. J'ose dire cela parce que la Bible dit que Christ l'a appelé à la liberté. L'évangile, alors souvent les gens présentent l'évangile comme une loi qui contraint, qui assujettit les gens, qui les maintient dans un carcan. Et c'est comme ça que le monde regarde l'évangile. Mais quand on lit la Bible elle-même, n'a pas ce regard. L'évangile est présenté comme une loi de liberté. L'apôtre Jacques le dit, il dit que c'est la loi de la liberté. Je vous lis, il dit, mais celui qui aura plongé, Jacques 1, verset 25, les regards dans la parole parfaite, la loi de la liberté, et qui aura persévéré, n'étant pas un auditeur oublieux, mais se mettant à l'œuvre, celui-là sera heureux dans son activité. Et l'apôtre Jean dit ici, il rapporte les paroles de Jésus lui-même dans Jean chapitre 8, où il dit que, il dit, si vous demeurez dans ma parole, vous êtes vraiment mes disciples. Vous connaîtrez la vérité, et la vérité vous affranchira. Donc, le chrétien, la liberté du chrétien est quelque chose de tout à fait réel. Le chrétien est libéré de l'esclavage du péché et de la mort. Qu'est l'homme naturel, c'est qu'il est assujetti au péché. L'esclavage le plus abominable qui soit, c'est l'esclavage du péché. Et la Bible dit que l'enfant de Dieu est délivré, est libéré de l'esclavage, de la puissance du péché. Romains 8, 2 dit, en effet, la loi de l'esprit de vie en Jésus-Christ m'a affranchi de la loi du péché et de la mort. Romains, on va pas lire ce verset, mais Romains chapitre 6, verset 18 à 22 parle de cet esclavage du péché et de cet affranchissement que connaît le croyant. Il dit qu'il est affranchi du péché. Le croyant est affranchi du péché. Jésus dit, quiconque se livre au péché est esclave du péché. Dans Jean chapitre 8. Mais il dit après, et si le Christ vous affranchit, eh bien, vous serez réellement libre. Et la Bible parle du salut en termes d'affranchissement. Et le chrétien est vraiment celui qui est libre, libre à l'égard du péché, libre à l'égard de devoir se faire accepter par Dieu en pratiquant des rites de la loi. Il est libre aussi dans ses attitudes, dans sa relation les uns avec les autres. Et le chrétien jouit vraiment d'une réelle liberté. La valeur, le caractère, la puissance de la libération, la liberté que connaît le chrétien est liée à celui qui l'a libéré, Jésus-Christ. Jean 8, 36 dit, si donc le Fils vous affranchit, vous serez réellement libre. Il y a des gens qui ne sont pas réellement libres. Il y a des gens qui prônent la liberté, mais on n'est pas réellement libre. L'histoire nous apprend que les hommes ont aboli l'esclavage, par exemple, mais que d'autres l'ont rétabli. Ce sont là des libertés, des libérations, on pourrait dire, qui sont fragiles, qui reposent sur le bon vouloir d'hommes fragiles, pervertis, versatiles. Ceux qui sont esclaves de la corruption ne peuvent pas restaurer véritablement et valablement la liberté. L'apôtre Pierre dit dans 2 Pierre chapitre 2 verset 19 parlant des faux docteurs, ils disent, ils promettent la liberté quand ils sont eux-mêmes esclaves de la corruption. Donc pour être vraiment libre, il faut être libéré par Jésus-Christ. Lui seul apporte la réelle liberté parce que c'est la liberté de l'esclavage du péché qui permet d'être libre, d'avoir la pensée libre de servir, d'avoir la conscience lavée de servir Dieu librement, de se soumettre librement. C'est quelque chose qui est difficile. Allez parler de soumission dans le monde. Soumission égale esclavage, n'est-ce pas? Soumission à son mari, c'est l'esclavage. Soumission au patron, c'est l'esclavage. Soumission aux autorités, ça s'appelle l'esclavage. Dans la Bible, le chrétien libéré par Jésus-Christ bien peut se soumettre librement. C'est ce dont il est question ici dans le passage que nous avons lu. Christ affranchit réellement celui qui vient à lui. Donc, certes, Pierre dit, vous êtes libre. Mais, ajoute-t-il ici, ne faites pas de la liberté un voile qui couvre la méchanceté. Donc il va ici parler du bon usage de la liberté chrétienne. Il dit, vous êtes libres sans faire de la liberté un voile qui couvre la méchanceté, mais agissant comme des serviteurs de Dieu. Premièrement, il dit qu'il ne faut pas se servir de la liberté pour faire le mal, égoïstement de la liberté. Il met en garde contre cette tendance humaine qui consiste à se draper parfois d'un droit légitime pour ne pas accomplir ses obligations. Et il est évident ici que dans ce contexte-là, que ce dont il parle, c'est le fait de brandir la liberté pour ne pas se soumettre aux autorités. Un peu comme on entend de nos jours. On a le mot liberté, je crois qu'il est sur... Vous pouvez pas échapper, hein. Avec tout ce qui se vote, on parle de loi liberticide ici. Mais Pierre dit ici, attention, lorsque vous utilisez votre liberté, assurez-vous que vous ne l'utilisez pas comme un écran pour cacher au fond le mal. Comme un voile qui cache, dit-il, la méchanceté. Et il est en train de dire quelque part que la motivation peut être plus mauvaise qu'on ne le croit. Sous couvert de liberté, on peut être en train de pécher. Sous couvert d'exercice de ma liberté, je peux être en train de pécher. Et l'apôtre Paul disait la même chose aux Galates. Il dit, frère, vous avez été appelés à la liberté. Seulement, ne faites pas de cette liberté un prétexte pour vivre selon la chair. On peut faire de la liberté un prétexte pour vivre selon la chair. On peut habiller d'un vêtement spirituel une motivation charnelle. On peut habiller d'une valeur louable une motivation qui est inavouable. Alors comment cela se manifeste-t-il ? Par exemple, dans l'église de Corinthe, vous vous rappelez, il y avait des personnes qui n'avaient pas le même niveau de connaissance. Alors certaines, toutes converties, mais certaines disaient pouvaient acheter librement de la viande qui avait été sacrifiée dans des banquets, qui était vendue après à la place du marché. Ils pouvaient acheter cela, manger ça en toute bonne conscience. Et puis l'apôtre Paul dit, d'autres n'avaient pas la connaissance concernant les idoles, etc. et trouvaient, et leur conscience était souillée par le fait que ces premiers achetaient de la viande et puis le mangeaient comme cela. Pour eux, c'était péché que de faire cela. Okay. Et Paul va aider à corriger cette attitude. Alors les uns utilisaient leur liberté et ils ne péchaient pas en mangeant la viande sacrifiée aux idoles. L'apôtre Paul dira même, le fait de manger de la viande, de ne pas en manger, ça n'ajoute rien, ça n'enlève rien. Il dit, c'est rien. Il dit même que les idoles, voilà, nous savons qu'il n'y a pas d'idoles, etc. Il dit, je veux pas que vous soyez en communion avec les démons, mais bon, mais tout ça, c'est pas... Mais il dit, mais tout le monde n'a pas cette connaissance-là. Il y en a qui l'ont, et puis d'autres qui l'ont pas. Alors les uns exercent leur liberté parce qu'ils ont la connaissance, et puis les autres, ils sont gênés, scandalisés par l'exercice de la liberté des premiers. Ce que Paul dit ici, on va lire ça en 1 Corinthiens chapitre 8, il dit ceci, 1 Corinthiens chapitre 8, verset 8. Verset 7, il dit, mais cette connaissance n'est pas chez tous. Quelques-uns, d'après la manière dont ils envisagent l'idole, mangent de ces viandes comme étant sacrifiés aux idoles et leur conscience qui est faible en est souillée. Ce n'est pas qu'un aliment nous rapproche de Dieu. Si nous en mangeons, nous n'en avons rien de plus. Si nous n'en mangeons pas, nous n'avons rien de moins. C'est pas un problème de le manger et d'exercer sa liberté à le faire. C'est pas ça le problème. Il dit, prenez garde, toutefois, que votre liberté ne devienne une pierre d'achoppement pour les faibles. Car si quelqu'un te voit, toi qui as la connaissance, assis à la table d'idole, sa conscience à lui qui est faible ne le portera-t-elle pas à manger des viandes sacrifiées aux idoles? Et ainsi, le faible périra par ta connaissance et le frère pour lequel Christ est mort. Et Paul dit ici au verset 12, c'est là que je voulais en arriver, il dit, en péchant de la sorte contre le frère et en blessant leur conscience faible, vous péchez contre Christ. Et il dit donc, vous avez exercé votre liberté, et ce faisant, vous avez péché. Autrement dit, votre liberté a été un manteau, un voile, qui a couvert votre péché. C'est ma liberté de manger ceci. Je ne pêche pas quand je le fais. Peut-être que lui, ça, mais moi, je ne peux pas m'interdire de le faire. Il dit, en le faisant, c'est pas le fait d'avoir mangé la viande qui est le problème. C'est le fait qu'en le faisant, j'ai causé la chute de l'autre. À ce moment-là, ma liberté est utilisée comme un manteau, comme un voile qui couvre la méchanceté. Autrement dit, l'effet de ce qui se produit comme effet lorsque j'exerce ma liberté est très important. Et donc, par rapport dans le rapport avec les autorités, je dois faire attention à cela. Je dois faire attention à cela. Qu'est-ce qui me motive quand je brandis ma pancarte ou quand je revendique quelque chose? Est-ce que je suis motivé par de bons sentiments ou est-ce que c'est mon orgueil? Est-ce que c'est autre chose? Est-ce que ce n'est pas le péché qui me motive, tout simplement? Il faut se poser cette question-là. Et cet exemple que Paul donne est intéressant parce qu'il montre que l'exercice de ma liberté n'est pas présidé par la vérité sur les choses. Hein. C'est vrai que manger ou ne pas manger, ça ne change rien. Il n'est pas motivé par la connaissance, simplement. D'accord. Mais il doit être motivé, dit-il ici, par l'amour. Quand l'amour ne motive pas, quand les pensées pures ne motivent pas ce que je fais, eh bien, la liberté que j'utilise n'est qu'un manteau pour cacher la méchanceté. Alors, il dit, étant libre sans faire de la liberté un voile qui couvre la méchanceté, mais agissant comme des serviteurs de Dieu. Et donc, j'ajoute deuxièmement que exercer la liberté, le chrétien doit exercer la liberté pour servir la cause de l'évangile. Il dit, étant libre, sans faire de votre liberté un voile qui couvre la méchanceté, mais agissant comme serviteur de Dieu. Qu'est-ce que ça veut dire agir comme serviteur de Dieu? Ça veut dire agir de manière à servir Dieu, à refléter le caractère de Dieu et à permettre à l'évangile de se propager. Le chrétien doit user sa liberté non comme un prétexte au mal, mais il doit l'user en sa qualité de serviteur de Dieu. Littéralement, la Bible dit « en esclave de Dieu ». Donc ça, il y a un peu quelque chose qui est presque contradictoire ici. Il doit agir en homme libre comme esclave de Dieu. C'est ce que Pierre est en train de dire. L'exercice de sa liberté doit être contenu dans sa nature de serviteur de Dieu. Ce qui doit transparaître quand il use de sa liberté, ça n'est pas son opinion politique, ça n'est pas son mécontentement, ça n'est pas sa colère, ça n'est pas son envie, mais ce qui doit transparaître, c'est sa qualité de serviteur de Dieu. Autrement dit, c'est l'évangile qui doit transparaître. Ses actions doivent refléter clairement qu'il est un enfant de Dieu, soumis à Dieu, parce qu'il se soumet à l'autorité établie par Dieu librement. Il n'est pas idolâtre de sa liberté, il est adorateur de Dieu. C'est ce qui doit transparaître. Alors, j'aimerais qu'on regarde l'exemple de Jésus dans Matthieu chapitre 17. Matthieu chapitre 17, verset 24. Jésus arrive à Capernaum avec ses disciples, en tout cas avec Pierre au moins. Et la Bible dit que lorsqu'il arrive à Capernaum, il y a des personnes là, des collecteurs d'impôts, de taxes pour le temple, c'était une taxe pour le temple, 2 drachmes, et qui les aborde et puis qui dit à Pierre, verset 24, fin du verset 24, « Votre maître ne paie-t-il pas les 2 drachmes, hein, donc les 2 pièces, taxes pour l'entretien du temple ?»« Oui, dit-il. » Pierre répond « Bien sûr. » Et puis quand il rentre à la maison, Jésus prend Pierre et puis il lui dit « Que t'en semble, Simon? Les rois de la terre, de qui perçoivent-ils le tribut ou des impôts? De leurs fils ou des étrangers ? Alors Pierre répond, des étrangers. Et Jésus répond, ils en sont donc, les fils sont donc exempts. Il dit, les fils des rois ne paient pas des impôts. C'est ceux qui sont assujettis qui paient les impôts. Les étrangers qui paient les impôts. D'accord ? Donc le fils, ils sont exempts. Et le mot exempt ici, c'est le même mot que l'apôtre Pierre utilise quand il dit étant libre. C'est le mot libre. Ils sont libres. Libres de payer ces taxes. C'est leur droit de ne pas les payer. Ils peuvent même réclamer le droit d'être exemptés de payer cela. D'accord ? Puisqu'ils sont fils du roi. Donc quelque part, Jésus est en train de dire que lui, il est fils de Dieu. Il est plus grand que le temple. Et il dit, hein, il y a ici plus que le temple. Le temple, c'est la maison de son père. D'accord ? Lui est exempt de payer, il est en tant que fils, une taxe pour l'entretien de sa propre maison. Okay. Et puis il ajoute, que c'est là que l'enseignement est, « Mais pour ne pas les scandaliser, va à la mer, jette l'hameçon et tire le premier poisson qui viendra, ouvre-le, lui la bouche, et tu trouveras un ster. Prends-le, donne-le pour toi et pour moi. » Il ne va pas user son droit d'exemption. Il a droit de ne pas payer cette taxe. Il ne va pas le faire. Il va payer la taxe et il explique pourquoi il paye la taxe. Et c'est ça qui est important ici. Il dit pour ne pas les scandaliser. C'est la motivation de Jésus quand il paye la taxe. Il va se priver du droit qu'il a de ne pas payer dans le but de ne pas scandaliser. Et scandaliser, ça veut dire, c'est un verbe qui veut dire faire trébucher. Un auteur faisait remarquer que ce verbe est toujours utilisé dans le Nouveau Testament avec le sens de faire trébucher spirituellement. Toujours. Et donc, il dit pour ne pas être une pierre d'achoppement pour les collecteurs d'impôts, pour ne pas les faire trébucher spirituellement, il va payer l'impôt. Et l'évêque anglican D.C. Ryle disait à propos de ce texte, il dit « Il y a une profonde sagesse dans ces mots, afin de ne pas les offenser. » Il nous enseigne clairement qu'il y a des sujets sur lesquels le peuple du Christ doit renoncer à ses propres opinions et se soumettre à des exigences qu'il n'approuve peut-être pas complètement, plutôt que d'offenser et d'entraver l'évangile de Christ. C'est important ça, je trouve ici. Il dit qu'il y a des choses, peut-être que l'on n'approuve pas. Dans un gouvernement, il peut y avoir des choses que l'on n'approuve pas. Ici, la taxe était peut-être probablement pas juste ici. En tout cas, pas juste que Jésus la paye. Il y a des choses que l'on n'approuve peut-être pas. Mais ici, il dit que même en ne les acceptant pas complètement, eh bien, il dit, il vaudrait mieux s'y plier si, en ne le faisant pas, on risque d'être une pierre d'achoppement et un obstacle à l'évangile. Il faut souffrir parfois des lois qui nous dérangent un peu si la cause de l'évangile est en jeu. Il faut résister lorsque c'est contraire, fondamentalement contraire au commandement de Dieu. Mais il faut s'y soumettre. Si jamais le fait de ne pas se soumettre constituera un obstacle à la propagation de l'évangile. Et Paul dit exactement pareil dans 1 Corinthiens chapitre 9 quand il parle de son droit à recevoir un salaire en tant que serviteur, en tant que prédicateur de l'évangile. Il dit, je vous lis ça au verset 1 Corinthiens 9, verset 11, il dit, « Si nous avons semé parmi vous les biens spirituels, est-ce une grosse affaire si nous moissonnons vos biens temporels ? Si d'autres jouissent de ce droit sur vous, n'est-ce pas plutôt à nous d'en jouir ?» Et il ajoute, « Mais nous n'avons point usé de ce droit. Au contraire, nous souffrons tout afin de ne pas créer d'obstacle à l'évangile de Christ. » Il y a des fois des choses qui sont des droits les plus légitimes, mais sur lesquels il faudra faire une croix parce que la cause de l'évangile est en jeu. Et c'est pour cela que Pierre dit, vous êtes libres, mais n'utilisez pas votre liberté comme un voile qui couvre la méchanceté, mais agissez comme des serviteurs de Dieu. Le serviteur de Dieu, il est motivé par la propagation de l'évangile, comme Jésus l'a été dans l'exemple que nous venons de lire ici. Il n'est pas dit que Jésus approuvait l'existence de la taxe. Il n'a pas dit même qu'il a dit qu'elle est bien fondée. Il s'est pas posé de question, est-ce que cet argent était bien utilisé ou pas. Peut-être que les gens mettaient l'argent dans leur poche. C'est pas une partie, en tout cas. On sait pas ce qu'ils faisaient avec. C'était pas là le problème. Le problème de Jésus est que si on ne la paye pas, ces personnes seront scandalisées. Et nous serons une occasion de chute pour ces personnes. Alors, ça vaut pas la peine de manifester pour ça, même si c'est injuste. Payons la taxe. Vous voyez l'enseignement qu'il y a ici, chers frères et sœurs. Il dit qu'en tant qu'enfant de Dieu, on doit bien réfléchir lorsque nous voulons brandir notre liberté, lorsque nous voulons crier « Ouais, on nous oblige à faire ceci, c'est liberticide !» Est-ce qu'en faisant cela, je suis en train de créer un obstacle à la propagation de l'Évangile ? Est-ce que je me comporte comme serviteur de Dieu ? Et c'est toujours cet aspect d'être une pierre d'achoppement qui vient à chaque fois que la liberté, elle est mise en jeu quelque part. Regardez, on a lu ce que Paul dit en 1 Corinthiens concernant la viande sacrifiée aux idoles. Regardez en Romains chapitre 14, par exemple. Romains chapitre 14. L'apôtre Paul parle de deux catégories de personnes. Il dit, accueillez celui qui est faible dans la foi. Verset 14, verset 1. Et ne discutez pas les opinions. Moi, je suis pour ceci, moi, je suis pour là. Et toi, t'es pour ci ou... Il dit, ne discutez pas les opinions. Il dit, tel quoi pouvoir manger de tout. La viande, des légumes, tout ça. Et puis, tel autre qui est faible ne mange que des légumes. Ça, c'est les végétariens. Vous voyez que l'apôtre Paul dit qu'ils sont faibles, les végétariens. Tel qui est faible ne mange que des légumes. Ça, c'est ma petite fille. Mais c'est... Voilà, c'était le verset que les enfants disaient. Papa, tu vois, regarde, l'apôtre Paul dit les légumes, que tu ne voulais pas manger les légumes. Les légumes, c'est pour les faibles. Hein? Non, non, non. Hein? C'est pas là qu'est le point, le principal ici. Mais Paul dit, voilà, tel quoi pouvoir manger de tout, tel autre qui est faible ne mange que des légumes. Et il dit que vous devez, que celui qui mange ne méprise point celui qui ne mange pas, que celui qui ne mange pas ne juge point celui qui mange. Et puis, il développe toute sa pensée. Et plus loin, il dit ceci, à partir du verset 13, il dit, ne nous jugeons plus les uns les autres, mais pensez plutôt à ne rien faire qui soit pour votre frère, quoi, une... Voilà, ne pas le scandaliser. Et puis, c'est pas terminé. Verset 21, il dit, il est bien de ne pas manger de la viande, de ne pas boire de vin, et de s'abstenir de tout ce qui peut être pour ton frère une occasion de chute. Encore le fait de scandaliser. Vous voyez, c'est à chaque fois ce souci que l'on doit avoir. Est-ce que cela va être un obstacle à la propagation de l'Évangile? Est-ce que je me comporte en serviteur de Dieu en le faisant? C'est ça qui doit déterminer notre attitude dans tout ce que nous faisons. En tant que citoyen, on doit comprendre que la soumission à l'autorité n'implique pas l'approbation forcément. Nul n'est obligé d'être en accord avec tout ce qui est voté. Mais on doit se poser la question, est-ce que cette loi ou ce qui m'est demandé souille mon âme? Est-ce que cela est un obstacle à l'évangile? Est-ce que l'on me demande, comme c'était le cas à l'époque de Plagne avec les gens de la Bithynie, de me prosterner, d'adorer quelqu'un d'autre que Jésus-Christ? C'est ça qu'il faut se poser comme question. Et si c'est pas le cas, est-ce que ça vaut la peine? Est-ce que ça vaut la peine de ternir le témoignage de l'Évangile simplement pour brandir mon droit à la liberté? Le chrétien doit être motivé par le service de Dieu. Sans faire de votre liberté un prétexte qui cache la méchanceté, mais comme serviteur de Dieu. Et le serviteur de Dieu est aussi serviteur des autres. L'apôtre Paul dit dans 1 Corinthiens chapitre 9, « Bien que je sois libre à l'égard de tous, je me suis rendu serviteur de tous. » Il était libre à l'égard de tous, mais il s'est rendu serviteur de tous. Serviteur de Dieu, serviteur de tous. Le chrétien doit manifester l'amour pour Dieu dans ce qu'il fait et l'amour pour les autres. C'est ça qui doit cadrer notre liberté. Je me rappelle au début de cette crise sanitaire, je parlais avec ici et parfois, vous voyez, quand les choses arrivent, on est toujours un peu, on a des avis bien tranchés. Et le frère Jean-Pierre, il m'a dit, on doit être motivé par l'amour, on doit faire attention à être motivé par l'amour pour les autres aussi. Et c'est resté dans mon esprit. C'est vrai, on doit agir dans les décisions que l'on prend. Peut-être qu'on n'est pas d'accord avec ceci ou avec cela, mais est-ce qu'on est motivé par l'amour pour les autres quand on le fait, par le service pour les autres, par l'amour pour Dieu? C'est ça qui doit être la grande motivation. Et pas mon opinion, pas ce que j'entends sur les réseaux sociaux. D'accord ? Parfois, on reçoit beaucoup de choses qui nous disent voilà, il faut se lever parce que sinon, etc. Il faut réfléchir. Il faut bien réfléchir. Il y a des causes pour lesquelles il faudra se lever. Il y en a d'autres. Si on se lève pour elles, on crée un obstacle à la propagation de l'Évangile. Et le premier souci du chrétien est d'être un serviteur de Dieu, d'agir comme un serviteur de Dieu, de pratiquer le bien, de se soumettre aux autorités, comme Jésus l'a fait, de payer la taxe injuste dans le seul souci de ne pas scandaliser le percepteur. Est-ce que c'est ça qui nous motive? De se soumettre à l'autorité dans le seul motif de ne pas scandaliser les autorités, mais de pratiquer le bien. De pratiquer le bien, afin que la seule chose qu'il puisse avoir à nous opposer, c'est la pratique du bien, à la gloire de Dieu. Et donc, Pierre termine en disant ceci. Il dit, et je termine aussi, il dit, honorer, il dit, 1 Pierre chapitre 2, verset 16, il dit, 17, il dit, honorer tout le monde, aimer les frères, craignez Dieu et honorez le roi. Que le Seigneur nous aide à considérer ces choses et à ne pas appeler conspiration tout ce que les hommes appellent conspiration, à ne pas craindre tout ce que les hommes craignent, mais à agir librement, librement, comme serviteur de Dieu, motivé par l'amour pour Dieu et l'amour pour notre prochain. Dans toutes les décisions, dans tout ce que nous faisons. Nous te remercions, Seigneur notre Dieu, pour ta parole. Et nous te demandons que tu nous aides à y obéir. Nous voyons que, Seigneur, notre citoyenneté céleste, notre espérance, doit se manifester dans l'obéissance dans le temps présent, l'obéissance à ta parole qui nous commande d'avoir une attitude correcte à l'égard de toute autorité instituée parmi les hommes, que ce soit des autorités civiles, que ce soit l'Église, que ce soit dans le foyer, que ce soit dans le domaine professionnel, que tu nous donnes d'être motivés par l'amour, ton amour, l'amour pour toi et l'amour pour les autres, le service pour toi et le service pour les autres. Seigneur, aide-nous à être comme Christ, comme Paul, conduit par ton esprit. Nous te prions ces choses en ton nom et pour ta seule gloire. Amen.